Bonsoir à tous.
Donc Nadia, c'est la tante d'un prisonnier qui est en prison depuis...
Depuis un petit peu plus de 9 ans maintenant.
Ok, d'accord.
Donc, pour expliquer brièvement le parcours, il est rentré à la base en juillet 2006 pour des peines successives de 10 et 12 mois, et pour délit de droit commun. Et aujourd'hui, il est encore enfermé puisqu'il tient tête à la pénitentiaire et que l'administration n'apprécie pas les rebelles. Hein. Et encore rebelles, je trouve que voilà, ce sont eux les rebelles, mais les dictateurs. Bon, je suis un peu dure avec eux parce que je suis très en colère après ce système carcéral injuste et inhumain. Et donc, il a des peines, il voit sa peine rallongée sans cesse, puisque, comme d'autres détenus, hein, il n'est pas seul dans ce cas-là, ils savent qu'ils ne se laissent pas faire. Hein. Et du coup, ça se termine par des plaintes de surveillants ayant besoin d'arrondir leur fin de mois pour des plaintes pour injures, outrages et menaces de crime. Donc, c'est des peines qui vont de 12 à 24 mois, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a presque 10 ans d'emprisonnement.
Voilà, donc il rentre pour 10 et 12 mois et il est encore là-bas 9 ans plus tard.
Il est placé en centrale, donc ouais. Voilà, par rapport à son soi-disant comportement. Après, je sais qu'il ne se laisse pas faire, hein, je vais être assez transparente envers les auditeurs aussi, envers vous. Mais voilà, comme je reprends encore, comme j'ai fait lors d'une autre émission, on va reprendre la citation que j'avais lue sur le blog de Christine. Certains condamnés commettent le crime de parler. Donc, ça résume l'incarcération abusive et qui perdure d'Ibrahim, de Christine et d'autres.
Oui, et ce qui fait que on s'est connus, c'est que justement à un moment, toi, après, si je me souviens bien, c'est après des violences qu'il a subies par des surveillants à la prison de Poitiers-Vivonne. Là, toi, exactement, sa tante qui le soutient depuis le début. T'as décidé de prendre la parole publiquement pour le soutenir publiquement et dénoncer ce qui se passait.
Voilà, pour le soutenir et pour également que le public sache ce qui se passe dans nos prisons, parce que les médias nous essayent de nous aveugler pour nous faire oublier le monde carcéral en France en nous mettant du Guantanamo et d'autres pour ne pas les citer, que ce soit des prisons mexicaines, etc. Donc il y en a, effectivement, c'est peut-être pire, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de certains systèmes que dénoncent les médias à la télé. Donc Poitiers-Vivonne, pour moi, ça a été vraiment l'enfer. Ça a été l'enfer, toute son incarcération là-bas, parce que lui-même ne se sentait pas en sécurité, avait peur de mourir, ce sont ses termes. Donc il s'est fait tabasser en mai 2014 par un surveillant avec la complicité et l'aide de ses collègues. Et moi j'avais un parloir, on m'a appelé toutes les semaines, donc il faut savoir qu'on appelle sur un numéro surtaxé à Vivonne pour prendre rendez-vous. On nous confirme la réservation du parloir et après, toutes les semaines on m'a appelé pour me décourager, pour ne pas venir, en me disant c'est pas possible. Premier parloir à Vivonne, j'arrive, il arrivait entouré d'un dispositif, avec le visage à moitié tuméfié, s'était fait tabasser. Et nous avons déposé plainte, notre plainte a été classée sans suite, et la plainte du surveillant, bien entendu, a été retenue. Il a pris 9 mois ferme, alors qu'il s'est fait tabasser.
Malheureusement, ce n'est pas des histoires si rares, mais ce qui est particulier, là, c'est que... toi, tu prends la parole et tu essaies de faire savoir ce qui se passe, etc. Et comment quand même tu peux expliquer le fait qu'il ait des altercations comme ça avec les surveillants ou l'administration ?
En fait, justement, parce que ça peut paraître peut-être paradoxal, mais parce qu'il est, il ne supporte pas l'injustice, l'inhumanité. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il a pu rétorquer, c'est uniquement de la revendication de ses droits.
Ouais.
Et des autres détenus par la même occasion, parce que effectivement, par exemple, si on prend son passage en incarcération sur le Bordio à Bourges, il a organisé un mouvement collectif pour dénoncer des conditions inhumaines en cellule. Donc, il a donné des exemples lors d'un procès, donc en disant que pour manger des pâtes, il commence à les faire cuire l'eau à 18h pour manger ses pâtes à 21h, ce qui n'est pas normal. Et suite au mouvement collectif, il a été transféré. Et je lui ai fait parvenir, lors d'un passage au tribunal, un article, quelques semaines après le mouvement collectif, reconnaissant le manque de dignité humaine dans cette prison. Donc voilà, des fois ça a été reconnu au niveau de ses paroles, de ses actes, mais aujourd'hui, il revendique ses droits. Ouais. L'administration pénitentiaire ne l'accepte pas. Donc, ils passent par des méthodes, hein, c'est-à-dire qu'ils vont aller le chatouiller, le titiller, l'embêter dans son sommeil, etc. Donc, à un moment donné, tout être humain qui ne dort pas bien ben, ne va pas réagir de manière, entre guillemets, diplomate. Donc, lui, ça, il dit ce qu'il pense. Donc, peut-être, des fois, il y a peut-être des mots, des grossièretés, des insultes qui partent, et ça se termine en dépôt de plainte pour menaces et outrages, et puis un placement en QD, en isolement. Donc, actuellement, il est à Clairvaux, donc on lui fait faire l'ascenseur. QD, quartier disciplinaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est Mitard, Cachot. D'ailleurs, j'invite le public à aller sur Internet et regarder l'état des cachots au XXIe siècle en France. Hein. QI, donc c'est quartier d'isolement, 23 heures sur 24 en cellule. Et quand là, actuellement, demain, il redescend en QD, il n'a droit qu'à une seule visite par semaine et un seul coup de fil par semaine. Donc, où est l'humanité? Il faut qu'on me l'explique.
Ouais, et donc là maintenant il est à la centrale de Clairvaux qui a une.
Il est à la centrale de Clairvaux, exactement, à côté de Gros Profil, alors qu'il voilà.
Oui, qui est une centrale pour longue peine, ouais.
Longue peine avec des choses anormales, hein, avec des choses anormales, quelques déplacements de profils comme Ibrahim à côté de deux personnes terroristes, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc ce qui n'est pas normal, ce qui nous paraît pas logique. Hein. Et une administration pénitentiaire centrale qui est bizarrement gérée, et ça je peux me permettre d'être témoin direct, hein, parce qu'il y a des choses que je vais vous citer, des passages de pensée d'Ibrahim qu'il a passé, qu'il a retranscrit par écrit. Hein. Et moi j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec ce fameux directeur de la centrale de Clairvaux, et je n'étant pas du tout d'un tempérament violent, étant vraiment à l'écoute, étant très, très altruiste, etc. Donc j'ai essayé de parler avec ce monsieur. En 40 minutes, ça a été très très dur de discuter. Donc je me dis, moi, en liberté, il a réussi à m'agacer. J'ai pris sur moi, donc un détenu qui connaît ses droits et qui le revendique. J'imagine comment il peut réagir avec 23 heures d'encellulement.
Ouais.
Donc voilà, c'est vraiment... faut que les gens comprennent. Je sais pas si... Voilà. En tout cas, les auditeurs, je veux qu'ils comprennent qu'il y a des personnes qui sont... comme l'a dit la procureure lors d'une audience d'Ibrahim sur Bourges, son incarcération n'a plus de sens. N'a plus de sens. Et il s'est évadé en octobre 2013 d'un palais de justice. Et le procureur, qui lui a mis 9 mois pour évasion, parce que les évasions, ça va de 1 à 3 ans, il a avoué à demi-mot avoir compris qu'à un moment donné, il avait envie de prendre l'air, quoi.
Oui, mais sauf qu'ils auront bon dire que ça n'a plus de sens, mais en attendant, il n'y a personne qui le fera sortir. Et ce cas-là, comme tu disais au début, il est pas, le cas de ton neveu, il n'est pas isolé.
Il n'est pas isolé parce qu'il y a des Christine Ribahi, il y a des Christine, il y a des Mohamed Doumbia. Mohamed Doumbia, je ne sais pas, il y a des Rachid Boulala, j'ai découvert son cas récemment. Aujourd'hui, voilà, si on prend l'exemple de Rachid Boulala. Boubala, on se transforme pas en être humain. C'est quelqu'un de propre, ça a été dit par un directeur pénitentiaire, parce que j'ai lu son parcours sur le blog de l'actu pénitentiaire, et ça m'embête de leur faire de la pub, parce que c'est des pleurnicheurs, mais bon, il y a des histoires qui sont quand même intéressantes à lire. Et aujourd'hui, cet homme, pour se faire entendre, il utilise ses excréments. Je trouve ça triste. Hein. Je trouve ça triste. Hein. Et on ne passe pas du jour au lendemain de personne normale, propre, à quelqu'un qui s'exprime à base d'excréments. Donc ça signifie bien à quel point l'administration pénitentiaire peut pousser les gens à bout. Et ils essayent en plus de casser les liens familiaux, puisque à Poitiers, toutes les semaines, on me décourageait, on me disait « Votre rendez-vous de demain n'est pas fixé », alors qu'au téléphone, on me disait que c'était confirmé, que ma place était réservée. Donc ils essayent de casser les liens, ils n'y arriveront pas de toute façon, parce que les liens du sang sont plus forts que tout. Et aujourd'hui, si j'avais écouté le directeur de Clairvaux, je renierais mon neveu. Ils essayent de casser les liens. Et aujourd'hui, malheureusement... Les enregistrements, etc., ce n'est pas valable aux yeux de la loi, mais je vous prie de croire que si je pouvais déposer plainte, je le ferais.
Et Ibrahim, il a écrit plusieurs courriers qui étaient destinés à être publiés, si j'ai bien compris, et tu voulais en lire quelques extraits ce soir pour lui donner la parole.
Exactement, avec un peu d'émotion, parce que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, donc d'ailleurs, il vous salue tous. Et c'est un peu plus dur pour moi ce soir de les lire, parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps au téléphone. Donc, excusez-moi.
Et il n'avait pas le moral.
Ça allait. Non, non, ça
ouais,
allait.
D'accord.
Moi, aujourd'hui, voilà, non, ça allait. On a même, okay. On a même échangé des rires, des petites plaisanteries, justement, même si le cœur n'y est pas. C'est vraiment pour le maintenir assez, assez en forme, quoi. Mm. Donc, pour vous citer donc les différents motifs, de, bah, par exemple, de revendication.
Oui, donc, parce aujourd'hui, il a pas... Pardon. Non, vas-y.
Non, non, non. Donc là, pour vous le dire, par exemple, sur un mouvement collectif récent donc, qui a eu lieu en novembre, il parle des revendications d'aujourd'hui qui sont, donc je le cite, hein, sont basées sur les conditions, nos conditions de détention et celles qu'on fait subir aux familles, à nos mères, pères, frères et sœurs et enfants, par des éloignements géographiques, par certains procédés qu'ils subissent à l'entrée du parloir, palpations illégales et j'en passe. Par la suite, amalgame, les peines à rallonge, pardon, les aménagements de peine quasi systématiquement refusée, les mensonges et en fait les privilèges et favoritismes donnés à certains et pas à d'autres. Le prix des cantines en instante augmentation et parle aussi de surtaxement de téléphone, la division et des agents qui s'adonnent à des conflits entre nous détenus ou autres manipulations, manigances, sans compter les récents propos et des propos raciaux, donc tenus lors de rondes de nuit en quartier d'isolement, en quartier disciplinaire. Donc messieurs, dames, pour savoir, c'est que c'est vraiment des quartiers très très durs au niveau conditions de vie. Et donc là, actuellement, il parle aussi des conditions qui se sont dégradées post-attentat.
Oui, donc ça, c'est en novembre, je ne sais plus exactement, mais vers le 26 novembre, je crois.
10 jours après les faits, oui.
Ouais. Ouais, aux alentours du 26, il y a eu un mouvement collectif et lui, il a été accusé d'être un meneur et il a été sévèrement réprimé derrière.
Meneur, voilà, ils étaient 23 et aujourd'hui, il est le seul à être encore enculé. Les autres, ils sont, ils étaient trop enculés. Il y en a un qui a été transféré à Vendin et lui, il reste en QDQI et puis un autre qui a... Et voilà, de toute façon, il y a des choses lamentables. On s'est agressé par un autre détenu à Clairvaux, mais c'est la personne qui s'est agressée qui se prend du QD. Donc, chercher l'erreur. Donc, concrètement, il dit donc.
Mais ça fait partie de la gestion de la détention pour l'administration pénitentiaire, en fait.
Oui, oui, de toute façon, oui, bien sûr, parce qu'il dérange, parce qu'en fait, il s'exprime très bien, il dit les choses, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc c'est vrai qu'après, il y en a qui ne sont pas très battants, qui sont plus faibles chez les détenus, donc ça les arrange, hein. Ils se disent, bon, ben, ils parlent pour nous, mais une fois qu'il faut revendiquer, ils sont 23, les ERIS interviennent et il n'y a plus personne. Mais aujourd'hui, c'est encore lui qui est sanctionné. Il est sanctionné. Et aujourd'hui, moi, ce qui me scandalise, c'est que je prends le temps de vouloir discuter, parce que nous sommes des êtres humains, nous devons échanger malgré tout, de discuter avec la direction de ce centre pénitentiaire. Et un directeur qui est censé gérer du personnel, des détenus, qui me rionnait en me parlant de transfert disciplinaire, en me disant que ce serait la surprise pour lui, et que moi, je vais avoir des heures de train pour aller le voir, tout ça en ricanant bêtement. Et voilà, donc aujourd'hui les provocations se font même à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il pensait peut-être que j'allais l'insulter ou autre, ce qui n'est pas le cas parce que ça ne m'intéresse pas, je n'aurais pas donné ce plaisir et ça ne m'intéresse pas d'être rentré dans ce type de conflit. Mais voilà, on voit l'administration pénitentiaire est prête à diviser, ne serait-ce que pendant un entretien téléphonique où on essaye de comprendre les choses.
Ouais.
Donc aujourd'hui, on insulte, comme je lui ai dit à ce directeur, il me dit oui, mais. Il a insulté quelqu'un, ben, je dis oui, mais après, la personne avait déposé plainte, c'est ça? Il me dit que oui, donc je dis oui, mais il est déposé plainte pour insulte. Ok, mais je sais que vous, ça se termine en menace de crime. Donc ça craint. Je dis, si on devait tous être enfermés pour insulte, eh ben, je vous dis pas, sur le périph' parisien, on serait tous à Fresnes, hein, ou à Fleury. Hein. Donc là, il faut faire quelque chose quand même. Hein. Donc il faut savoir aussi que dans ce centre pénitentiaire, j'ai dû enlever mon pantalon.
On a fait visite.
Voilà, donc je ne cache pas que c'est moi qui, par respect pour les familles de détenus qui attendaient derrière, à un moment donné, bon, je mets toujours le même jean parce que je suis sûre que ça ne sonne pas, et on m'a fait sonner, j'ai vu des échanges de regards de toute façon avant, et on m'a fait sonner, voilà. Donc on me fait sonner, j'ai vu le manège bien avant que ça sonne, moi n'ayant rien à me reprocher, j'y vais tranquillement, on me dit que c'est l'humidité, etc. Donc à un moment donné, je fais sortir le surveillant, le monsieur, parce que je suis pas là pour faire un spectacle. Hein. Et du coup, bah, je propose d'enlever le pantalon par respect pour les familles qui attendaient dehors pour pas leur croquer du temps de parloir, parce que ils me refusaient de repasser sans cesse. Et en fait, je pense que l'idée de base, c'était de me faire repasser, de sonner, puis de m'interdire l'accès. Je pense.
Ouais.
Parce que c'est assez pratique. Parce que quand j'ai dit au directeur que j'ai enlevé mon pantalon, il m'a dit normalement, ça se fait pas et on n'a pas à vous le faire. J'ai dit non, je me suis proposé, je respecte les gens. Donc, ils attendaient derrière, dans le froid. Et il m'a dit, bah, au bout de 4 heures, normalement, vous ne rentrez pas. Donc, il m'a clairement à moitié, pour moi, il m'a fait un petit aveu. Donc,
parce que c'est qu'en face, en fait, c'est en fait ton neveu, il est étiqueté. Il traîne vraiment au sein de l'administration pénitentiaire. Du coup, partout où il ira.
Il a eu affaire à 38. Et vous savez ce qui est extraordinaire, a priori, donc on n'y a pas accès, mais a priori, on lui a même prêté des agressions. Sur surveillant dans deux prisons dans lesquelles il n'a jamais mis les pieds. Ils sont formidables, hein.
Ça, c'est dans
l'administration pénitentiaire. Ça, c'est. Non, ils sont top, hein. Mais moi, je vous invite quand même à aller avoir des barres de rire en regardant l'UFAP. Ils sont à mourir de rire, mais moi, ils me font pitié, en fait. Ils me font pitié. Et du coup, lui, il essaie de tout mettre par écrit, mais c'est pas évident.
Est-ce que tu avais d'autres extraits de ces lettres à lire?
Justement, ouais. Je voulais venir à. Ouais. Un autre extrait, donc il reparle de la cause, donc qui dit c'est le contexte, les conditions inhumaines et indignes, les provocations, incitations à la haine, à la violence de certains membres du personnel qui cherchent et ciblent une certaine catégorie de détenus dans un but bien précis, déposer des séries de plaintes à tort par abus et ayant pour objectif d'arrondir leur fin de mois, ce qui est appelé dans leur argot un 13e mois. Et en même temps, le détenu voit sa peine rallonger sans cesse et le maton voit ses fins de mois grossir, un avantage en se cautionnant partie civile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2013 et 2015, les peines à rallonge et toutes les plaintes sont évaluées à plus 73%. Alors nous demandons des explications et du changement. Donc ça, il demande vraiment qu'il y ait les chances qui changent. Il demande aussi à un moment donné de penser aux familles qui souffrent, aux mères, aux pères, aux enfants. Aujourd'hui, il demande aussi à tous, il veut que tout ça soit diffusé et soit lu, quoi.
Ouais. Parce que ce qu'il dit, c'est que c'est la double peine, c'est aussi pour vous, en fait.
Bah, la double peine, exactement, c'est pour nous. Et puis la double peine, moi j'ai envie de dire que lui, déjà, actuellement, il est en double peine, c'est-à-dire qu'il est en prison et puis il est dans un cachot. Donc triple peine, parce que prison de base, cachot, plus rallonge. Donc voilà, à un moment donné, je veux que le public sache aussi que ce mec-là, il a envie d'être auto-entrepreneur, il a envie de faire sa vie dehors, il a envie de profiter comme un jeune. On lui a volé sa jeunesse, il est rentré à 19 ans, aujourd'hui il en a 29. Et messieurs, dames, moi j'attire juste votre attention, c'est que il a le droit d'être en liberté, il n'a pas tué, il n'a pas violé. Bref, chacun, on n'a pas à juger, chacun est emprisonné pour chaque. Il y a des condamnations pour tout type de délit, mais c'est pas ça que je veux vraiment que les gens retiennent. Les gens, je veux qu'ils retiennent que ce sont avec leurs impôts. Aujourd'hui, quelqu'un en centrale, c'est 180 euros par jour, hein, avec nos impôts, alors que là, tout le monde dit que ça n'a plus de sens qu'ils soient emprisonnés. Donc aujourd'hui, ils nous coûtent 180 euros, des fois jusqu'à des milliers d'euros pour des transferts pour aller au tribunal ou pour des transferts pénitentiaires. Voilà. Les 38 centres, c'est avec nos impôts, etc. C'est lui-même qui le dit.
En fait, même au-delà de l'argument économique que Ibrahim met en avant, c'est en fait, c'est comme les peines qui sont prononcées, tout ça, c'est au nom du peuple français, en fait. Ça, en fait, ces violences-là, elles sont cautionnées par la justice, en fait, puisque les matons en face savent très bien qu'ils ne seront jamais condamnés ou très rarement.
Voilà. Par toutes les gardes des Sceaux, bien sûr. Et c'est cautionné. Madame Taubira, je ne compte même plus les recommander. J'ai une enveloppe grosse comme ça avec des justificatifs d'accusés de réception. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est que l'un des employés de Madame Taubira qui s'occupe des transferts pénitentiaires m'avait garanti en avril dernier qu'il serait en rapprochement familial à Fleury-Mérogis. Il me l'a garanti. Et quoi qu'il en soit, il était à l'époque à Bordeaux, il m'a dit quoi qu'il en soit. Et ils l'ont fait à l'envers. Ils lui ont fait un écrit pour lui dire qu'il sera à Fleury, il s'est retrouvé à Clairvaux. Donc ça, c'est des provocations pour nous diviser.
Ouais, parce que
eh tu... oui,
Ouais, parce que toi, ça te fait très loin pour aller le visiter.
Bah, c'est ce que j'ai dit. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai dit au directeur. Bon, j'ai essayé de faire appel à son côté humain, mais je pense que je me suis vraiment fait des films avant de passer l'entretien. Et aujourd'hui, j'ai dû penser au coût économique, au coût, à la fatigue pour nous. Il me dit, oui, mais bon, il a qu'à y penser, lui. Bah, je dis, attendez, moi, je suis pas dans les murs, hein, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc là, vous essayez de le descendre au maximum. Moi, je ne l'ai pas vu, hein. Les vidéosurveillances, il a été agressé. Les vidéosurveillances qu'on demande, a priori, ont été écrasées.
Ça, c'est un classique.
Oui, c'est un classique, mais bon, pour moi, ça prouve bien qu'ils ont quelque chose à se reprocher parce que, comme par hasard, c'est écrasé. Donc, voilà. C'est vraiment du n'importe quoi. Ils se décrédibilisent eux-mêmes. Mais de toute façon, à mes yeux, ils sont décrédibilisés. Et je vais pas être dans un... Je ne serai même pas dans un système de haine et violence comme ils peuvent le faire. Comme leur maton de taper les détenus, de taper une femme, par exemple. Une femme comme Christine, voilà quoi. Moi, je suis dépassée, je suis écœurée.
Est-ce que tu avais d'autres extraits de lettres que tu avais envie de nous lire?
Alors, oui, j'ai pas mal de. Alors, après, c'est vraiment par rapport. Après, c'est vraiment aussi par rapport aux conditions actuelles, parce que là, ils parlent beaucoup de la radicalisation.
Ouais, dans les médias, ouais.
Voilà, dans les médias. De toute façon, les médias sont complices du monde carcéral, c'est malheureux. Enfin, pas tous les médias, je parle vraiment des médias, les chaînes d'info par exemple.
Ça donne une vision complètement erronée de ce qui se passe vraiment à l'intérieur et quels sont les enjeux et les rapports de force qui...
Ils en jouent parce qu'ils savent qu'aujourd'hui le peuple a peur de ce monde carcéral, ne s'y intéresse pas. Ils s'intéressent juste à voir qu'il y a des... je pense qu'ils retiennent juste, sans vouloir juger qui que ce soit, que le fait qu'il y ait une surpopulation carcérale. Aujourd'hui, quand on entend des gens, combien de fois on m'a dit il n'y a pas que des innocents en prison, combien de fois on m'a dit de toute façon ils sont nourris, logés, blanchis, je leur dis, vous ne savez pas ce que c'est d'être dans un cachot. Moi-même, je ne sais pas, je n'ai jamais été emprisonnée, mon casier est vierge. Mais les gens n'ont aucune sensibilité en règle générale. Ils sont là à dire, ah ben il est là-bas, il n'a pas volé. C'est ça le problème ici. Je trouve que notre problème en France, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on voit la prison, on dit que les détenus sont favorisés. Si vous saviez comment ils sont traités, ils ont oublié dans l'administration pénitentiaire que les détenus étaient des humains avant tout. Et ça, ils l'ont oublié.
Et le problème des médias, c'est justement le fait que leurs informations, ils les obtiennent pour la plupart du temps, quand il se passe quelque chose à l'intérieur d'une prison, c'est par le biais des syndicats de surveillants.
Exactement, ouais. Quand on voit l'UFAP qui est tout le temps invité en train de venir pleurnicher, mais faut voir les propos qui tiennent, hein. Faut voir les propos qui tiennent, hein.
Oui.
Sur certains sites, hein.
Ouais.
C'est bien ça le problème, hein. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas.
Et c'est pas que l'UFAP, hein. Par exemple, pour Rachid Boubala, on a justement, ils produisent vraiment des tracts, et faux pénitentiaires en l'occurrence pour Rachid Boubala, produit des tracts dégueulasses, qui du coup, Rachid a justement porté plainte, quoi.
Ah ben là, moi j'ai carrément saisi la LICRA, hein, parce qu'il y a eu des propos antisémites, hein, à l'égard de mon neveu. Il a, même avant, hein, malheureusement, toutes ces années, il a eu des gardes à vue, etc. Et il s'est fait traiter de sale arabe. Tu vas voir la garde à vue qu'on va te faire passer. Mais bon, malheureusement, c'est sa parole quant à l'heure. Hein. C'est bien ça le problème. Hein. Il a été jeté en cellule à Bordeaux en disant, tu vas voir, tu vas morfler, espèce d'enflure, hein, espèce de raclure. Hein. Voilà, alors qu'il a eu juste des échanges de mots avec un surveillant. Et puis, bon, bah, une fois de plus... dépôt de plainte pour menace de crime, alors qu'il ne s'est pas laissé faire. Il lui a dit « Bon, ben, t'es dans la provocation, maintenant, on va s'expliquer, mais sans vouloir venir aux mains, quoi. » Ils ont grossi le truc, et en plus, ils sont pas intelligents. C'est à l'issue d'un parloir qu'il a avec ma sœur, et elle m'a dit « Mais, elle n'a pas vu de fait de violence de la part de mon neveu. » Mais c'est pareil, quand on prend... De toute façon, ce qui est bizarre, c'est que Poitiers, Gradignan, Saint-Martin-de-Ré, c'est la même DISP, hein, direction interrégionale. Ben, dis donc, il y a des choses qui s'en passent, hein.
Ouais.
C'est bizarre. Donc trois prisons différentes dans une direction interrégionale commune, on va pas me dire qu'on s'envoie pas des SMS entre surveillants ou entre directions. Hein. Tiens, vous le récupérez, il a une étiquette bien sur le front, vous le récupérez, tu vas un 13e mois, tu as envie de le voir au mitard, tu as envie de kiffer, et ben tiens, fais-toi plaisir, tu le récupères. Moi je pense que c'est ça et je suis totalement d'accord avec lui.
Et sur l'histoire du 13e mois, tu as entièrement raison. Hein. Ça, nous, on a pu l'observer, ça fait 8 ans qu'on fait une émission, et on a pu l'observer à travers différentes histoires, que en fait, les prisonniers qui font des cumuls de peine comme ça, c'est une vraie manne financière pour les surveillants pour arrondir leur fin de mois.
Ah bah, ça, c'est ça, tu l'inventes pas. Vous ai vu tout à l'heure. Hein. Ah oui, non, je ne l'invente pas. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est Madame Taubira, moi, je lui ai écrit plusieurs fois cet argument. Elle en a strictement. Je lui ai écrit tout ce qui s'est passé parce qu'à Gradignan, il a été quand même, on lui a craché dans sa gamelle, on l'a traité comme un chien. Il avait fondu, mais de parloir en parloir, ma sœur allait le voir et moi, quand je suis allée le voir là-bas, mais je ne l'ai pas reconnu. Il avait la peau sur les os. Il avait des yeux tristes. Mais j'ai dénoncé tout ça. Donc après, j'ai fait saisir également le défenseur des droits. Donc il y a une délégation qui s'est déplacée. Mais aujourd'hui, bon, j'attends de voir parce qu'ils ont quand même été à l'écoute. J'attends de voir ce qui va en aboutir de tout ça parce que l'histoire de Poitiers, moi, je ne comprends pas en rester là. Il se fait tabasser, il prend 9 mois ferme. Et en plus, ils sont même pas cohérents. J'ai eu l'occasion de lire les auditions. Il n'y a pas un surveillant. Ils se trompent, ces imbéciles. Excusez-moi, hein, je me permets. Ils se trompent sur les... Ils se trompent sur les dates, ils se trompent sur les versions, ils sont pas droits dans leurs bottes, il n'y en a pas un qui dit la même chose. Un coup, ils identifient un stylo dans la main de mon neveu, alors que l'avocat, il leur a dit que c'était impossible qu'il en ait. Après, c'est un objet, mais ça ressemble à un stylo. Il n'y a rien de précis. Et la machine judiciaire, voilà, aujourd'hui, la surpopulation carcérale, c'est le ministère de la Justice, le système judiciaire qui crée la surpopulation.
Tout à fait.
Carcérale. Donc c'est tout. Hein. Et justement, dans un passage, il dit... que cette machine, ces conditions carcérales, c'est ce qu'il y a de plus indigne, c'est la plus indigne des choses qui soit dans le système judiciaire. Pour casser les repères de quelqu'un et anéantir ses relations avec les siens, il n'y a rien de pire. Et est-il logique que nous ressentons dans ces conditions un sentiment d'abandon total, sans cesse conforté par le fait que le droit derrière ces murs n'est qu'un leurre? Et par ailleurs, à force de généraliser sur la radicalisation, c'est faire passer beaucoup d'entre nous au statut de suspects potentiellement dangereux. Donc après, bon, lui, comme il parle de radicalisation, il dit que par principe qu'un détenu pratique sa religion de façon modérée le rend suspect, ou alors s'il côtoie des personnes condamnées pour ces faits, le rend suspect aussi. Et finalement, vous cherchez avec insistance à nous enfoncer, à nous salir derrière, par derrière, et faire passer beaucoup d'entre nous pour ce qu'ils ne sont pas.
Voilà, donc on va bientôt clore cette interview pour passer à l'interview d'une autre Nadia.
D'accord.
Mais en tout cas, c'est super important de relayer ses paroles et de prendre la parole pour dénoncer tout ça. Et moi, je voulais te poser quand même un peu une dernière question. C'est
bien sûr.
Un peu un peu peut-être en l'air, mais qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dehors pour...
Alors, quand on est dehors, j'invite les familles de détenus, même si on est... Au début, on ne sera pas nombreux, mais à faire des rassemblements devant certains centres pénitentiaires où il y a vraiment des cas comme ça. Mais j'ai envie de dire certains, je suis sûre que c'est dans tous les centres pénitentiaires qu'il y a des cas.
Ouais, c'est ça le problème.
Voilà, il n'y a plus de cas isolés, voilà. Mohamed Dunga, par exemple, ils ont voulu le rendre paralysé, elle se fracassait son dos. C'est quelqu'un qui prend sa douche depuis des années, menotté, enchaîné quasiment, tout le temps. Il faut des rassemblements. Il ne faut pas avoir peur et cesser d'écouter écouter des émissions comme celle-ci. Lisez L'Envolée, mais cessez de lire, parce que les médias sont vraiment en lien avec les ministères, les gouvernements. Tout est falsifié. Parce que maintenant, malheureusement, tout est faux dans ce qu'on leur dit. Et écoutez l'émission Papillon, lisez L'Envolée, et je vous prie de croire que commencez à vous intéresser à cela, et regardez bien ce qui se passe réellement, parce qu'on vous ment, et on vous dit, on vous enjolive en fait le monde carcéral, mais c'est une horreur. Et moi, rien que de rentrer dans un bâtiment de parloir, dans certains lieux, je vous assure que c'est très très dur, on n'est même pas respecté, les toilettes ne sont même pas nettoyées, il n'y a même pas dans le distributeur, il n'y a rien, on n'a même pas de moment de partage, de pouvoir boire quelque chose ensemble, rien du tout. Donc franchement, moi j'invite les gens, les familles de détenus, même le public s'il veut, même s'il y a des personnes qui n'ont pas de membres de la famille détenue, faisons des rassemblements pour montrer qu'il y a une éveil des consciences, qu'on n'est pas stupide et qu'on sait ce qui se passe dans les prisons, qu'il faut dénoncer ce qui se passe dans les prisons. Et aujourd'hui, on n'a pas assez d'émissions justement qui va téléviser, qui dénonce ça.
Eh ben, ouais, merci.
Et ça, il faut un rassemblement. Et puis, soyons forts pour eux. C'est très, très, très dur. C'est même plus dur des fois pour nous, les membres de la famille qui sommes à l'extérieur. Mais Moi, en tout cas, je me bats. Je me battrai jusqu'au bout. Ma santé a pris un coup, mais bon, je me battrai jusqu'au bout. Je veux que la population... je veux faire éclater la vérité.
Ouais.
Voilà, parce que les petits défilés des députés, ça me fait bien rire, mais au lieu de demander aux députés, de journalistes de venir avec les députés, qui viennent avec les familles.
Ouais, et ben merci beaucoup Nadia pour cette prise de parole.
Merci beaucoup, et merci à vous.
Bah, bon courage, et essaye de te reposer malgré tout.
Ouais, ouais,
parce qu'il
pas
en
évident,
faut pour
ouais.
tenir le coup.
Exactement, exactement. Exactement, et puis voilà, je voulais vraiment vous remercier et j'invite vraiment, vraiment, vraiment les auditeurs, le peuple à bien regarder ce qui se passe dans nos prisons.